Salut!
Vous écoutez Qui veut épouser le fisc, une série de podcasts réalisée par Perrine Bontemps et Camille Montagnon.
On est toutes les deux étudiantes en master de journalisme à Sciences Po Rennes. Et pendant plusieurs mois, on s'est intéressées aux histoires d'amour et d'argent. Alors le fric dans le couple, tabou ou pas tabou? Et qui gère les comptes? Le mariage, c'est oui ou bien c'est non?
Qui veut épouser le fisc, c'est 6 épisodes sur l'organisation financière des amoureux, mais aussi des réflexions sur les inégalités de genre entretenues, voire aggravées par notre système d'impôts.
Fiscalisation des pensions alimentaires, caution conjugale, solidarité fiscale, bref, on va vous parler cash. Bonne écoute!
Et ça, ça produit quoi? Ça produit que, en 2011, les femmes en couple de sexe différent gagnaient en moyenne 42% de moins que leurs conjoints. Je rappelle qu'en moyenne, les écarts de revenus en France, alors je ne l'ai plus au pourcentage près, mais c'est entre 20 et 25%. Et si on regarde que les célibataires, en 2011, c'est 9% d'écart seulement. Donc il y a bien un creusement fort des écarts de revenus dans la conjugalité hétérosexuelle.
Dans Le genre du capital, la sociologue Sybille Golac rappelle avec Céline Bessière que dans 59% des cas, les hommes sont plus âgés que leurs épouses, et donc plus avancés dans leur carrière professionnelle. Cela augmente les écarts de salaire préexistants entre les sexes, et l'appauvrissement des femmes éclate souvent au grand jour au moment des séparations. Bon, une des solutions peut être de se convertir au célibat longue durée. Mais pour ceux qui n'ont pas prévu d'arrêter de se mettre en couple, comment on fait?
Se marier, oui, mais sous quel régime? Doit-on mettre nos revenus en commun? Et si on se sépare, qui gère la maison? Tu m'offres le resto ou on fait 50-50? Dans ce deuxième épisode de Qui veut épouser le fisc, on a cherché à comprendre les effets que peuvent avoir les choix maritaux et financiers des amoureux.
En France, il existe deux grandes catégories de régimes matrimoniaux qui permettent aux futurs mariés de décider du partage de leurs biens. Les régimes de communauté et ceux de séparation.
Par défaut, c'est la communauté légale réduite aux acquets qui s'applique. Dans ce cas, pas besoin de conclure de contrat de mariage ni de payer de frais de notaire. Les époux restent alors maîtres des biens qui leur appartenaient avant le mariage et sont propriétaires en commun des biens acquis durant le mariage.
Veux-tu m'épouser sous le régime de la communauté légale réduite aux acquets?
Oh oui, je le veux.
Vous vous souvenez d'Emmanuel et Olivier, ces cadres chez Orange qui vivent à Cesson-Sévigné, nous parlaient dans le premier épisode de leur absence de tabou et de leur gestion des tâches administratives. Eux, ils se sont mariés en 1998, sans contrat de mariage.
Bon, c'était un choix, hein, parce qu'en plus, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de patrimoine chacun. Enfin, je veux dire, si on n'amenait pas forcément de patrimoine, il n'y avait pas un gros écart entre nous, il n'y avait pas non plus des fonctions ou des... on dirait des professions qui peuvent être à risque pour l'un et qui conduisent aussi à protéger l'autre avec un contrat de mariage. Donc,
Puis je pense que fondamentalement, on n'a jamais voulu faire de l'argent à sujet de discussion, quoi, en fait.
Et du coup, vous n'êtes même pas renseigné à ce moment-là, enfin, c'était pas une question, un contrat de mariage, quoi.
Ah non, moi je ne me suis pas renseigné de savoir ce qu'il fallait mieux faire ou pas faire, si il fallait mieux changer aujourd'hui ou rester comme ça. Non, je ne me suis jamais posé la question, moi, je ne sais pas...
J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
Depuis 1992, la part des couples qui font le choix du régime de séparation des biens a augmenté de 64%. S'il reste très minoritaire, 10% en 2015, il s'agit souvent de personnes aisées aux revenus inégalitaires. Ils peuvent ainsi conserver un patrimoine propre, notamment en cas de séparation. Pour les couples pacsés, comme Delphine et Quentin, c'est la séparation de biens qui s'applique par défaut.
Okay. Et donc à un moment donné, vous avez décidé de vous pacser. Comment le sujet est venu sur le tapis?
Le fric.
C'était essentiellement pour des raisons financières, mais de toute façon, comme on était bien ensemble et qu'on s'entendait bien ensemble depuis un moment... Forcément, le sujet est arrivé assez naturellement. Quoi. Je sais plus quel jour exactement c'est tombé, mais...
On s'est dit que ce serait bien de se paxer pour au moins mettre en commun l'argent, les impôts. C'est plus facile à gérer de se paxer qu'il n'y ait qu'un seul...
Sûrement quand on a commencé à faire les déclarations d'impôts. Je pense à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir, à se dire eh, « en fait, ça devient intéressant en fait, de se paxer. »
Une seule déclaration, ce serait pas mal.
Ça, c'était en 2021.
C'est prévu, ouais, qu'on se marie. On n'a pas encore fixé de date.
Non.
Et comme pour le PAC, ça va sûrement traîner.
Mais... c'est ça.
Mais voilà.
Aujourd'hui, les deux tourtereaux envisagent de se marier en conservant le même régime.
Pardon, vous comptez vous marier en séparation de biens?
Ah oui.
En contrat de séparation.
Mmh.
Oui, contrat. Tout, oui. Bah, on ne sait jamais, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Donc oui, un contrat avec séparation des biens. Ouais.
Parce que là, actuellement, on n'a rien de spécial, en fait.
Non, mais il y a la maison, c'est déjà un gros morceau.
Il y a la maison, oui, on a un contrat pour la maison, enfin, entre guillemets, on a signé un contrat pour la maison, moi j'ai un prêt, toi t'as pu donner, et on a dit que voilà, c'était 50-50 pour la maison, quoi.
Chacun a la moitié de la maison. Mais voilà, actuellement. Au moment de la séparation, on peut pas. Enfin voilà, si jamais on se sépare, il faut trouver un arrangement avec la moitié qui garde la maison et il faut reverser à l'autre ce que l'un a mis dans la maison.
Voilà.
Alors forcément, penser à la possibilité de divorcer avant même d'avoir essayé sa robe et entamé la pièce montée, ça calme. Pourtant, c'est essentiel. C'est du moins ce qu'en dit l'ancienne journaliste économique Héloïse Boll, aujourd'hui conseillère en patrimoine.
Il y a de plus en plus de contrats en séparation de biens, mais ça reste ultra minoritaire et ça concerne surtout les classes aisées. Le problème, c'est que même dans les classes aisées, finalement, de temps en temps, les gens se marient, ils sont d'accord, ils disent oh, « bah, bien sûr, on fait un contrat en séparation de biens, on gagne chacun notre argent, on a chacun nos revenus, etc. » Ça, sur le principe, dans le début d'une histoire et quand on se marie, enfin, il y a zéro problème, en fait, sur le papier. Et puis, arrivent les déséquilibres et qui sont malheureusement pas toujours du fait de la situation du couple, hein, qui sont quand même, je vous fais pas un dessin, les femmes gagnent encore à qualification égale et temps de travail égal 9% moins que les hommes, elles ont le plafond de verre, etc. Enfin, vous pouvez très très vite si, là-dessus, vous avez un ou deux enfants par-dessus le marché et que vous travaillez dans une boîte où les gens sont pas hyper évolués. Les choses peuvent aller très vite et les écarts de carrière peuvent se creuser très vite. Et il y a un double effet pervers là-dessus qui est que si vous vous installez là-dedans, dans ce déséquilibre, très souvent, celui qui a une carrière ascensionnelle va avoir de plus en plus de promotions et finalement, il va y avoir un accord tacite qui va consister à dire, de toute façon, il faut bien qu'il y en ait un de nous deux qui avance et donc c'est lui. Donc vous avez fait un contrat en séparation de biens sur le papier parce que vous étiez parfaitement d'accord et que vous aviez à peu près le même genre de salaire, le même genre de job, etc. Et 10 ans plus tard, c'est plus du tout la même histoire, en fait. Vous êtes toujours en séparation de biens, mais il y en a un qui a doublé son salaire et l'autre qui a péniblement augmenté de 15%. Enfin, je vous fais un exemple. Et donc là, finalement, est-ce que c'est très juste comme répartition des choses, sachant que dans le même cas, dans cette situation-là, vous élevez quand même les mêmes enfants, que vous habitez quand même dans la même maison. Je vous passe aussi l'histoire des tâches ménagères, etc. Mais que finalement, vous avez beaucoup, beaucoup de déséquilibres qui se sont creusés pendant ces années-là. Finalement, la séparation de biens dans ces cas-là fonctionne plus aussi bien qu'avant.
Ce que montre Sybille Golac dans ses travaux, c'est qu'une femme a une capacité d'épargne plus faible qu'un homme. En moyenne, les femmes ont près de 40% d'économie en moins que leur conjoint, et avoir des enfants creuse davantage cet écart. Donc, en séparation de biens, le mari va accumuler un capital plus important et l'épouse va être d'autant plus lésée à la séparation. En communauté de biens, par contre, l'accumulation de patrimoine est mise en commun, peu importe l'apport individuel des époux. Ça peut donc être un avantage en cas de divorce, vu que les deux parties auront la moitié du fric, ou de l'oseille. De la thune, quoi. Mais alors concrètement, comment concilier thune et vie commune? On a été voir du côté d'Olivier et Emmanuel, à Cesson-Sévigné.
Et du coup, par rapport à votre couple, comment vous vous organisez pour les comptes, pour les dépenses, enfin pour l'argent de manière générale? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ensemble, que quelqu'un...
Pas du tout.
En fait, le fonctionnement, c'est qu'on garde chacun notre compte sur lequel on perçoit notre salaire, et on a un compte commun qu'on vient incrémenter, alors un peu proportionnellement à nos revenus, on va dire, pour les dépenses courantes communes. Et c'est moi qui gère ce compte. Voilà. Et quand il n'y a plus assez d'argent dessus,
Il faut remettre.
Voilà, non, mais voilà, et puis on gère les dépenses un peu exceptionnelles, style les vacances, etc., un peu, je dirais, au cas par cas, en fonction des liquidités que voilà, l'un ou l'autre peut avoir. Et
du coup, vous avez toujours fonctionné avec un compte, enfin, chacun votre compte. Ouais. Séparé,
ouais, depuis qu'on est en couple, en fait, on a ouvert le compte commun quand on s'est mis en couple, et on a toujours fonctionné comme ça.
Ouais. Et en plus, au départ, c'était plutôt moi qui gagnais plus. Mais donc, voilà, on mettait...
Les proportions se sont modifiées, en fait, au fur et à mesure que nos salaires se sont déformés. Mmh. Au début, c'est Emmanuelle qui mettait plus parce qu'elle gagnait plus. Mmh. Et puis, au fil du temps, j'ai commencé à gagner plus, et donc je me suis mis à mettre plus. Et en fait, comme Emmanuelle gère le compte, elle calcule la proportion à peu près de ce que chacun doit verser.
Aujourd'hui, l'écart de salaire entre Emmanuelle et Olivier avoisine les 6 000 euros par mois. C'est ce qui les a motivés à privilégier l'équité. Chacun contribue au compte commun à hauteur de ses revenus, tout en conservant un compte perso, en parallèle, pour s'acheter des BD par exemple.
C'est impressionnant la collection de BD là.
Donc c'est pour ça, vous comprenez bien que je ne peux pas financer tout ça, c'est pas possible.
Ça revient au même puisqu'on est marié sans contrat de mariage, donc tout le patrimoine il revient à 50-50. Mais en fait, je pense qu'on a, enfin, en tout cas moi, j'ai toujours souhaité avoir mon espace de liberté, c'est-à-dire que bah, mes dépenses personnelles, c'est mes dépenses personnelles. Si j'ai envie de m'acheter une bande dessinée ou de me faire un resto ou d'aller boire un coup avec des copains, bah, j'ai pas à me justifier de ce que j'ai fait ou pas fait. Et puis, bon, toi, je pense que...
Oui, c'est pareil.
On vous a pas demandé, mais est-ce que vous connaissez le salaire de l'autre?
Ouais.
Vous voulez bien nous le dire?
Moi, par exemple, en brut, je gagne 2720 et net, ça me fait 1920.
Et moi, c'est 2110 brut et je dois être à 1600 à peu près net.
Louise et Tristan ont des salaires plus proches et participent de façon égalitaire à l'alimentation de leur compte commun.
Ah, c'est vrai qu'au début, quand on s'est installé, on s'était dit qu'on allait forcément devoir trouver une organisation parce que forcément, le bail en fait, est officiellement au nom de Tristan, donc c'est lui qui paye l'intégralité du loyer. Et moi, après, je lui faisais un versement mensuel en fait, pour pouvoir régler ma part. Mais c'est vrai qu'après, on a tout de suite mis tous les contrats d'électricité, quasiment gaz, etc. à ton nom, parce que moi, quand je t'ai rejoint, j'avais pas d'emploi. Et du coup, forcément, une fois que moi j'ai trouvé du coup mon travail sur Rennes, on s'est dit qu'il fallait régulariser entre guillemets la situation pour que chacun paie vraiment sa part de manière équitable et pour éviter de s'embêter avec des comptes séparés, etc. Ou ok, toi tu payes l'électricité, moi le gaz. On s'est dit on met tout sur un compte commun qu'on crée du coup en ligne, comme tu le disais, pour que ce soit vraiment fait de manière propre entre guillemets. Et chacun verse la même somme sur le compte commun par mois.
C'est-à-dire que du coup, c'était beaucoup plus pratique pour tout ce qui était charges qui. Où on était liés, c'est-à-dire les courses, l'électricité, l'eau, le gaz. Mais du coup, on a créé un compte commun. En plus, maintenant, avec les banques en ligne, c'était vachement plus simple. Il n'y avait pas forcément besoin d'aller à la banque. Ça coûte rien. En plus, maintenant, on a des sous, même pour le faire. Du coup, c'est plutôt cool. Et du coup, on a fait ça. On a fait un compte commun pour toutes les dépenses habituelles, quoi. Du quotidien, du moins.
Globalement, oui. En fait, pour tout, quasiment, on utilise la carte commune. Et c'est uniquement, peut-être, pour les, entre guillemets, petits plaisirs ou si on va en resto, bah là, c'est... Si c'est pour faire plaisir, bah là, c'est certain que, par exemple, tu vas sortir ta carte, tu veux sortir la mienne, quoi.
Et oui, quand on aime, on ne compte pas. Mais on devrait.
En moyenne, 59% des couples d'actifs mettent leurs revenus en commun. Même si, comme on l'a vu, c'est de moins en moins le cas. Or, le système fiscal fait deux hypothèses. Petite 1. Seuls les couples pacsés ou mariés existent comme foyer fiscal devant l'impôt.
Petite 2.
En les forçant à faire une déclaration commune, le fisc part du principe que les époux mettent leurs ressources en commun. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. Paye ton impôt.
En attendant, on termine celui-ci en disant que le mariage, c'est un peu comme un programme minceur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais régime. Bon, la méthode vaut ce qu'elle vaut, mais l'idée c'est qu'on peut créer sa propre recette, à deux, en fonction des préférences de chacun. La journaliste Léa Lejeune compare cet équilibrage à un pacte d'actionnaires. On se pose autour d'une table, on décide de qui amène quoi, qui paie quoi, et comment on peut imaginer des mécanismes de compensation pour satisfaire au mieux les deux parties. Radical, mais avec un peu d'imagination, ça doit être possible de rendre ça sexy.
Dans le prochain épisode, Paye ton impôt, on entre dans le vif du sujet. Vous comprendrez comment le quotient conjugal impose davantage les femmes que les hommes. Restez connectés et à très bientôt.
Dans cet épisode, vous avez pu entendre un extrait de la non-demande en mariage de Georges Brassens et les premières notes de Money de Pink Floyd.
Vous venez d'écouter Qui veut épouser le fisc, une idée originale de Perrine Bontemps et Camille Montagnon.
La pochette a été imaginée par Marion Lechêne et c'est Liam Lenormand qui a créé la musique. Les interviews ont été menées à deux, Camille s'est chargée de l'écriture
et Perrine du montage. Merci de nous avoir écoutés.